You ready?
Ready for what?
Coup de sueur. Dans le mid. What?
Avec Pierre Couture.
Pierre, c'est un gars qui travaille 7 jours sur 7.
Et Nick Cloutier.
Posant.
Couture.
Donc ça va brasser.
Dans le mid. Radio. X.
Heures ben pile, bienvenue à Couture dans le Mid. Les deux prochaines heures, Lou, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Très, très bien. Ça va mieux qu'hier.
Oui.
Ah ouais, là,
ça s'entend.
Ah ouais, on reprend le dessus. Hier, ceux qui ont entendu le show, c'était pénible. Grippe très, je sais pas, le début d'été, je regarde. On vit avec ça.
Ben oui, l'important, c'est que ça soit passé. Hein.
Ben oui, on a encore des séquelles, mais on va survivre.
Lâche pas.
Hey, on fait parler de nous dans Radio-Canada aujourd'hui.
Ben oui, toi, la superstar.
Ben c'est, non, ben c'est superstar. Je sais pas depuis quand que les médias concurrents s'intéressent. Mais bon, regarde.
Tout le monde nous écoute, Pierre.
C'est Stéphane Lachance de Respect Citoyen, vendredi dernier, il est venu nous voir, puis on a jasé du tramway. Puis ce qu'on entend sur le terrain, là, si tu sors des voix officielles, parce que c'est ça aussi faire du journalisme, c'est sortir des voix officielles de ces DPQ infra puis des politicos là, qui gèrent leur argent comme ils gèrent leur argent personnel. Là. C'est-à-dire que...
On dépense.
On dépense, puis quand tu leur dis, toi, investirais-tu dans un projet comme ça? Ils disent, non, c'est l'argent des autres. et ce qu'on entend sur le terrain actuellement des consortiums, c'est que ça va être difficile de respecter le 7,6 milliards parce que là, on a un tunnel à creuser entre la basse ville et la haute ville. Et c'est particulier parce que le tramway ne peut pas monter trop rapidement dans un tunnel. Parce que c'est la technologie qu'on a choisie.
C'est un tramway. Pas un ascenseur.
Si on décidait de faire le tracé du tramway, comme on dit, là, sur terre, avec le niveau de difficulté des côtes haute ville, basse ville, le tramway ne peut pas monter.
Ça va bien.
Il est trop lourd. Il ne pourrait pas monter. Donc, on doit aller dans un tunnel puis faire ça, une inclinaison qui va faire qu'il va être capable de monter. Puis là, on craint, parce que le 7,6 milliards, là, CDPQ Infra confirme. Ben oui, c'est sûr, CDPQ Infra va confirmer. Mais ben, aller parler au monde sur le terrain, les autres disent, non, ça ne marchera pas, là.
Mais tu n'as même pas besoin de parler au monde sur le terrain, Pierre. Fais juste regarder l'ensemble des projets au Québec depuis le début des temps. C'est sûr qu'on va buster.
L'explosion des coûts. Là, je vous parle, tu sais, je parle de tramway, puis 7,6 milliards, vous rêvez à 7,6 milliards. CDPQ Infra va garder la ligne du 7,6 milliards parce que lui, avant, c'est l'an prochain, au mois de juin prochain, là, les concessionnaires vont revenir à CDPQ Infra, puis vont dire voilà maintenant ce que moi j'évalue l'ampleur des coûts. Il y a encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Là. On a encore 12 mois. Dans 12 mois, ils reviennent devant CDPQ Infra, puis ils disent garde.
Ce sera 12.
Ben, ça sera pas ce que tu penses que ça va être. Puis là, c'est sûr, l'autre, c'est CDPQ Infra, il travaille pour le gouvernement. CDPQ Infra, c'est le même quand il a fait le REM à Montréal. Au début, c'était quoi? On parlait de 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards. Puis là, ça a monté. Là, on est rendu à 8, 9 milliards, on ne sait même plus. Là. Bon, la première phase du REM.
Il y en a du cash. Prenez-le.
L'argent, c'est l'argent des autres. Là.
L'argent
donc, c'est juste ça. On faisait juste jaser de ça. Puis ce qu'on entend sur le terrain, c'est que ça va être. Ça sera impensable de respecter le 7,6 milliards. Mais là, on peut vivre dans le monde des Kalinours longtemps. Moi, ma job à moi, c'est pas de vous dire que la voie officielle, c'est des PQ infra. Là. C'est ce qu'on entend sur le terrain. Si vous regardez le pont de l'île d'Orléans, souvenez-vous, Geneviève Guilbeault était au transport à l'époque. Elle nous disait, elle, 2750 millions. C'est blindé. Là, ce qu'on entend, c'est 3 milliards puis 3,5 milliards.
Ah, oh, puis c'est même pas fini, là, ça n'a pas commencé à monter ce pont-là.
Hey, puis Benoît Charrette, qui est le ministre des Transports maintenant, a confirmé qu'il allait avoir des dépassements de coûts dans le dossier du pont de l'île d'Orléans. Lui, il continue à dire qu'il n'y aura pas de dépassement. Tu sais, Benoît Charrette, là, en termes de crédibilité là, sur les dépassements de coûts, là, on va repasser un petit peu. Tu sais, c'est les mêmes qui nous font la morale. Là. Fait que les politicos, là, prenez-en puis laissez-en. Là. Fait que on continue. Nous. Moi, je te le dis, c'est un projet-là en bas de 10 milliards. On ne pensait même pas à ça.
Non, mais rendu là, il va être trop tard. C'est ça la game. C'est de, que tout le monde dise ça coûtera pas cher, ça coûtera pas cher, ça coûtera pas cher, jusqu'à temps qu'on mette le pied dans le tordeur, ce qui est déjà fait. Ah, là.
On est ouvert. C'est parti.
La ville est scrap. On a le pied dans le tordeur d'une couple d'années. Ils vont dire ouais, finalement, c'est 8, finalement, c'est 9.
Ah ouais, exact.
Puis dans 20 ans, quand on va avoir fini de bâtir tout ça, parce que ça va prendre des années, puis à un moment donné, on va trouver une cuillère qui appartenait à Samuel de Champlain, on va tout mettre sur pause pendant 8 ans. pour fouiller, pour retrouver le tombeau, ben là, ça va être finalement 15 milliards.
Ouais, félicitations. On nous dit 2033. On entend 2034 puis 2035 sur le terrain, là. Pour l'ouverture du tramway, là.
Et puis maison, là.
Puis là, c'est, comme je te dis, si c'est une phase réduite, ils vont trouver toutes sortes de raisons pour nous en faire whopper, là. Les autres, ils veulent notre cash.
Ben oui.
Mais moi, je travaille pas pour l'État, là. Moi, j'en ai rien à foutre, là, de ces DPQ infra, là. Les autres vont flamber le cash, là. Moi, je vous dis ce qu'on entend sur le terrain. C'est des gens qui travaillent pour des consortiums puis qui nous disent ça va être tough.
C'est eux autres qui vont le bâtir. Ouais, ben... C'est DPQ infra, ils supervisent, ils organisent. Ben ouais, mais c'est pas eux autres qui donnent les coups de pelle, là.
Exact. Voilà. Bon. C'est fait, c'est dit?
C'est fait.
Hey, on va avoir un combattant de la MMA. Enfin, il y a son nom, là, demolé comme il faut.
Ayman Zahabi.
Bon, Ayman Zahabi.
De Laval.
Gars de Laval, c'est lui qui a combattu dimanche soir devant la Maison-Blanche. Il y avait un gala de la UFC.
Exactement.
Et lui s'est battu. Contre
Sugar Sean O'Malley.
Il a mangé une volée. Là.
Ouais, qui est un ancien champion. Fait que oui, ça a été un combat.
Ça a été tough.
Malheureusement, ça s'est pas fini comme prévu, mais quand même, l'expérience d'aller se battre à la Maison-Blanche Donald Trump et tout, il l'a clairement rencontré. Comment ça s'est passé, tout ça. Ça va être bien intéressant. Il va tout nous raconter ça. Là. Il y avait GSP aussi dans son coin.
Ben oui, parce que faut savoir que son frère, lui, il entraînait GSP.
Exactement.
Le nom du gym à Montréal, c'est Tristar.
Oui.
Et c'est un des gyms reconnus dans la UFC comme étant les plus performants. Et en termes, on forme des champions. Là. GSP sort de là aussi.
Voilà. Ça va être très, très, très intéressant de l'entendre tout nous raconter ça.
Autour de quoi, 10h20 à peu près?
Exact.
Je vais dire son nom, là. Ayman Zahabi.
Exact.
Ça? Très, très humble. Hein? C'est pas quelqu'un... vous allez le voir, là, c'est quelqu'un qui est très, très terre à terre. Là.
Oui. Ah oh, oui. Il est pas... Il chipipisse comme nous, on va dire ça de même. Là.
Mais tu le rencontres dans la rue, puis il te donne la main. Là,
exact. Puis après, c'est elle l'écrase parce qu'il est beaucoup trop puissant. Là, mais...
Non, c'est ça. Mais dans ce monde-là de la UFC, c'est un autre monde aussi. Là. Lui, il est allé en haut. Là. Il est allé devant la Maison-Blanche. Il s'est battu. Il est rentré dans une hiérarchie, si on veut. Là.
Oh oui, oh oui. Puis, tu sais, il a battu des gros noms. Là.
Lui, c'est 14-3, sa fiche.
Oui, puis dans ce monde-là, il y a José Aldo, notamment. José Aldo, qui est une légende, je l'avais vu le battre à Montréal, au Centre Bell. Ça avait été un méchant beau moment. Là, fait que, ça va être le fun.
Non, mais regarde, 10h20 autour d'eux. 10h40, on va voir Rodolphe Osny aussi. Toute la politique, là, c'est la fin de session. Il y a du grenouillage. D'ailleurs, même, il y a des sondages. Encore un nouveau sondage, c'est Palace Data, qui confirme l'avance du Parti québécois, 29%. Le Parti libéral dégringole, 25%, la CAQ à 20%, la CAQ plafonne. Et tu as le Parti conservateur d'Éric Duhem à 14% et Québec solidaire à 11%. Mais ce qui retient l'attention, c'est vraiment dans la région de Québec. RMR Québec, le Parti conservateur serait à 30%. Devant le Parti québécois et devant la CAQ. Hey, la CAQ est rendue deuxième à Québec. Selon ce sondage-là.
Ça, je suis surpris, par exemple.
Ben, la CAQ va redescendre. Là, hey,
c'est,
tu le vois, là.
C'est 10 points de plus.
Ouais.
Même au dernier sondage dans la région de Québec.
Ouais, tu vois là, 30% dans la région de Québec pour le PCQ, 26% pour la CAQ, 21% pour le PQ et 17%. Parti libéral monte dans la région de Québec.
Je comprends rien.
Ben, peut-être qualité des candidats. Là, on a annoncé quelques candidats. Il y a des...
Farnell.
Non, mais je pense qu'il y a un ancien juriste aussi là, qui est là-dedans. Donc, je sais pas, on va voir. Et là, le PCQ qui annonce aussi Karim El Ayoubi qui collabore ici dans le show.
Ben oui, avec qui on a jasé hier.
Oui, on a jasé avec. Ben, il va être annoncé aujourd'hui. Il va se présenter dans Chauveau. Donc, on place les billes tranquillement. Très bonne équipe autour du PCQ. Là. Tu regardes les noms, puis ça commence à être solide.
Oui. Ben, c'est ce qu'on reprochait à Éric tout le temps.
Ouais.
C'est que c'était le parti d'un seul homme. Là, c'est plus ça. Là. Il y a des gros noms qui popent de partout. Il va en avoir d'autres qui vont arriver encore.
Exact.
Des gros noms que vous connaissez. Fait que ça va être intéressant à suivre, cette élection-là.
Bon, dans RMR Montréal, c'est 32% pour le Parti libéral. Parti libéral, là, à l'est de Montréal, là, c'est sweet, sweet, nothing. Mais à partir de le début de l'île de Montréal jusqu'à Gatineau, là, ils vont faire quoi, 40-45 comtés à peu près?
Je me rappelle d'une cote légendaire de Max dans la Tribune du Peuple où il avait parlé à un anglophone puis qui demandait pour qui vous allez voter. Puis il dit, ben je vais voter pour le Parti libéral parce que je suis anglophone.
Ah non, c'est ça, c'est on se pose pas de questions.
Non, il a dit c'est comme ça, point barre.
Ben, au Québec, ça a été longtemps comme ça. Là. Des familles qui votaient rouge, libérales, mais les enfants étaient libéraux. Puis les petits-enfants étaient libéraux, puis ça portait le gilet du Canadien, puis c'était comme ça. Là. Y a
le
pas
père en fils.
Destine pas, là.
Hein, corruption ou pas, crime organisé ou pas, c'est libéral jusqu'à la mort.
Mais regarde, chez les non-francophones, c'est 55% Parti libéral.
Ben, c'est ça.
Mais la, tu vois, le PCQ, t'as 13. Chez les non-francophones.
Oh, join the conservatives.
Ben,
ça marche.
Perce tranquillement. Chez les francophones, c'est le PQ all the way, là, 34%. Après ça, la CAQ à 25%. Il y a encore du monde qui tripe sa CAQ.
Ben, Christine Fréchette, là, elle laisse beaucoup de monde.
Oui, mais elle plafonne, là, tu le vois. Là,
pas indifférent.
Là. Moi, je pense qu'elle vient de pogner son plafond. Là. Elle pourra pas aller plus haut que ça. Avec tout, c'est parce qu'elle porte le bilan du gouvernement, Louis. Tu sais, je veux dire, je comprends, là. Mais regarde, t'as 20%.
On sait même plus c'est qui François Legault. On l'a oublié.
Ah ouais, mais François Legault. Ben oui, mais c'est Christine Fréchette.
Hein, mais on l'a oublié. Tout oublié ça. C'est tout oublié. C'est tout pardonné.
Toi, tu penses?
Ah, je suis convaincu. Sérieusement, là.
Les boomers trippent sur.
Puis je le vois dans les médias, la run que Christine Fréchette fait, là.
Ouais.
Elle a des entrevues juste pour dire qu'elle n'est pas beige.
Ouais, puis là, elle a une entrevue pour dire que là, Northvolt, elle n'aurait pas mis autant d'argent. Là, t'attires sur l'autobus Legault puis Fitz, puis toute la gang. Ouais, mais t'es au Conseil des ministres.
Je sais.
Hey, moi, je me suis assez levé en chambre parce que quand Fitz est parti, c'est elle qui a ramassé le dossier Northvolt.
Absolument.
Assez levé, là. En chambre, elle disait tout est beau, Northvolt va continuer. On avait les indicateurs. Tu sais, quand on vous dit, là, fiez-vous pas aux politiciens. Tu sais, l'histoire du tramway, là, c'est des piquants infra puis les politiciens qui disent ça va coûter 7,6 milliards. Christine Fréchette, à un moment donné, elle s'est levée en chambre. Elle était ministre responsable de l'économie, là. Puis elle dit, Northvolt, on a les confirmations que la maison mère va continuer.
Oui.
Et tout va bien, il n'y a pas de problème. Écoute, tout le monde savait, les indicateurs, ça sortait. Bloomberg.
Le Titanic coule, le bateau est plié en deux.
Les informateurs, les gens qui travaillent dans le business, ils disaient, non, cette compagnie-là, c'est un mur, c'est fini, c'est terminé. Les marges de crédit, il n'y a plus rien qui marche, là. Donc, tu sais, les politiciens, là, sont là, ils vont nier jusqu'à la dernière minute. Puis dans le cas de CDPQ Infra, c'est la même affaire. Là. Ah. C'est des politiciens. C'est la caisse de dépôt et placement.
Faut pas se fier à la version officielle.
Les autres, ils vont jouer le catch jusqu'à la dernière minute, là, du 7,6 milliards. C'est juste ça que je voulais vous dire.
Le but, c'est de nous avoir.
Bien, le but, c'est les politiciens, là, prenez-en puis laissez-en. Ils sont là aussi pour pousser des projets, des agendas. Puis coûte que coûte. Hein. Coûte que coûte, ils vont y aller. Ils vont vous faire payer au centuple par vos impôts et vos taxes.
Moi, personne ne va s'en sortir.
Ben moi, je défends le contribuable. Je défends le payeur de taxes. Je vais défendre le gars qui... Monsieur, madame, tout le monde.
Travaille fort pour sa paye, qui se fait dépenser sans retenue par les gouvernements.
Non, mais ce monde-là se promène. Puis là, tu parles avec ces gens-là de politiciens. Gars, Jonathan Julien, là, dit qu'il veut se représenter au municipal. Jonathan, c'est correct, là.
Ah, t'as fait ta ride, man.
Oui, va-t'en au privé.
Oui.
Il y a d'autres choses, là.
Je sais pas, là. T'as pas de pension, là.
Voilà.
T'as pas fait assez longtemps.
Voilà. L'histoire. Duhem nous a donné une entrevue la semaine dernière sur la carte électorale.
Oui.
Parce que là, ce qu'on comprend, ça pourrait être illégal.
C'est-à-dire, ah oui?
Ben, c'est parce qu'ils ont taponné, les autres. Je sais pas si t'as vu, là. Les députés ont voté pour un redécoupage de la carte électorale au Québec qui passerait de 125 à 127 députés. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'au niveau légal, ils n'ont pas de pogne. La pogne, c'est le DGEQ, c'est le directeur général. Puis ça a déjà été challengé devant des cours de justice où le DGEQ a préséance sur les élus pour redécouper parce que les élus sont en conflit d'intérêts. Tu sais, t'as des élus comme... Là, on parlait de circonscriptions dans la région de Montréal. T'as des élus qui ont plaidé pour pas perdre des électeurs parce qu'on redécoupait certaines cartes, la carte électorale, puis on enlevait du monde dans certaines circonscriptions. Comté, ouais. Et là, les élus ont plaidé. Fait qu'eux autres, ils plaident pour leur parti, à eux autres. Mais son juge est parti là-dedans parce qu'ils ont décidé, eux autres, avec leur poids politique, de changer la carte électorale alors que ça doit être neutre. Et ça avait déjà été challengé, ça, notamment par les tribunaux. Et ça se pourrait que l'élection en cours soit illégale à cause du redessinement de la carte électorale décidé par des élus alors que c'est pas à eux à faire ça.
Ça pourrait-tu, mettons, là, que... Là, je sais pas si t'as la réponse à ça, là, mais mettons qu'on poursuit que l'élection a lieu, puis là, mettons, un parti est élu, puis tout, puis là, on...
Ouais.
Mais après, on dit que l'élection était pas légale à cause de ça.
Ben, ils ont décidé de taponner dans la carte avant.
Est-ce qu'on peut
en 2011, les élus avaient adopté une motion unanime reconnaissant la primauté de l'institution qui est le directeur général des élections.
Fait que c'est ça, c'est lui qui mène.
C'est lui qui a l'autorité suprême.
S'il décide que
c'est
non.
Les élus sont en contradiction. t'es juge et parti. Tu te pousses, ouais. Tu peux pas commencer à taponner dans la carte électorale.
Non, ça marche pas.
Parce qu'on va perdre des... faut que ça soit neutre. Faut que ça soit indépendant. Mm-hmm. Puis c'est vraiment basé sur le nombre d'électeurs par circonscription. Parce que là, à un moment donné, on parle d'Anjou, on parle dans la région de Montréal. Il y a trop de monde dans certaines circonscriptions. Il faut redécouper la carte pour ramener ça, rééquilibrer un peu le nombre de voteurs par circonscription. Mais là, eux autres sont allés taponner là-dedans.
Parce que si on commence, si on ouvre cette porte-là, là, qu'est-ce qui va empêcher un premier ministre, une première ministre de complètement taponner la carte électorale,
ben, c'est ça.
En fonction de s'assurer comme une victoire éternelle?
Exact.
T'sais, tu refais compter, puis tu patentes tout, t'analyses ça pour les arranger pour que dans 80 % des comtés, t'aies la majorité. C'est facile, il y a toujours moyen de taponner les chiffres de même.
Là. Ben là, on dit qu'il y aurait possibilité de conflit d'intérêts là-dedans. Parce que les partis politiques, d'accord, les partis politiques se sont entendus entre eux, Parti libéral, Parti québécois, mais c'était des circonscriptions, justement, notamment de PSPP et de Marc Tanguay, qui sont des chefs autour de dans la hiérarchie des partis.
Ben oui.
Donc, tu influences les décisions par des partis pris. Tu vois, là, comment. Alors c'est que le DGEQ est neutre, lui.
C'est très louche.
C'est très louche. Je ne sais pas comment ça va finir, mais ça pourrait être déclaré illégal.
Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on refait l'élection juste dans ces circonscriptions-là ou on la refait au complet?
Ben là, on va avoir 127 députés au lieu de 125. Là, il faut comprendre qu'on va-tu se ramasser avec 300 députés à un moment donné au Québec?
C'est deux salaires de plus. Là.
Beaucoup de députés. Tu sais, moi, je me dis, on pourrait avoir moins de députés. Maintenant, on ajoute des députés, puis ça, c'est les partis politiques qui décident ça, donc sont en conflit d'intérêts, alors que ça devrait être un organisme neutre qui gère les règlements,
ben oui,
de la partie. Là, c'est les politiciens.
C'est les joueurs qui décident des règles à game. Là.
C'est ce qu'on a fait. Puis le DGEQ avait été clair là-dessus. Il y avait eu de la jurisprudence là-dessus aussi. Elle n'est pas là. Yuri Chassin, lui, il a essayé de bloquer ça jusqu'à temps qu'il pouvait. Mm-hmm. Mais là, on a comme réussi à passer un projet de loi de la CAQ. Hein? La CAQ is back.
Ça, c'est parce que Fréchette, c'est une femme d'action.
Ben,
hein,
oui,
elle en fait des choses.
Oui, mais ils ont taponné dans la carte électorale.
Oui,
mais au détriment de qui, je sais pas. Mais ça pourrait être honnêtement, ça pourrait être challengé éventuellement. Et on reviendrait à dire, ben c'est le DGEQ qui a, si tu veux, la légitimité juridique pour redéfinir la carte électorale au Québec. C'est pas aux élus de le faire.
Ça aurait dû être ça dès le début, puis on n'aurait pas dû même pas s'embarquer là-dedans. Là.
C'est ce que Yuri Chassin disait.
Personne ne l'a écouté, comme d'habitude.
Ben on l'a eu à l'usure. On a passé dessus, puis à un moment donné, ils ont passé le projet de loi.
Tu sais, je dis c'est deux députés de plus, c'est deux salaires de plus. Non, c'est plus que deux salaires, là. C'est le salaire des deux députés, c'est le salaire
ben,
de
leurs
attachés, du gars qui travaille là,
puis quand
du bureau,
il y a, ouais,
la secrétaire, si ça, oh, ouais, le building, tout le kit. Hey, ça monte vite, là, ça fait du cash de plus.
Puis tu regardes le budget de la SNAT, là, l'Assemblée nationale, qui est une organisation indépendante, d'où relève le salaire des députés, entre autres, puis du staff politique, tout ça. Ça toujours en croissance, là. Ils se sont votés une augmentation de 30%.
Il y en aura d'autres.
C'est pas, là, le salaire des députés, il est plus à 130 000. Il était à 130 000, mais il a augmenté aussi. Là.
Ben oui.
Il augmente de quoi 3-4 % par année. Il est rendu à quoi 140, 142? Il faudrait que je regarde. Là. 142. Il était à 100 000. Ils sont rendus à 142 000 en l'espace de 3 ans.
C'est payant.
2023-2026.
Elle a des soupers spaghettes, hein, c'est payant. Elle est assise dans le fond de l'Assemblée nationale, puis elle joue à Candy Crush, puis après ça, elle dit oui, je vote pour. Après ça, tu retournes dans ton comté manger des soupers spaghettes. Ça donne le goût d'être député. Watchez-vous. On va peut-être bien me présenter, moi, avec.
Moi, Louis, je te verrai.
Ah ouais, hein?
Le parti rhinocéros.
Non, on va repartir le bloc-pot, moi.
Ouais.
Même si c'est légal, c'est pas grave. On m'a manifesté pour plus de légalité.
C'est bon, c'est bon.
Je veux qu'on fume en dedans.
Bon. Tarification dynamique. Là, tu vois, Ottawa dit on va peut-être légiférer. Ça, la tarification dynamique, on commence à la voir partout. Vous allez à l'épicerie. Je sais pas si tu as vu, hein, ils ont tout changé dans les épiceries maintenant. C'est des petites... les prix, là. Quand tu achètes une boîte de biscuits,
ouais,
tu as une petite étiquette. Avant, c'était des petits collants. Mais à ce temps, c'est tout électronique. Ça veut dire qu'à l'heure, à la journée, selon les approvisionnements, selon l'achalandage, il y a quelqu'un qui peut taponner avec l'ordinateur puis dire, gars, on monte tous les prix de 10 cents,
c'est
15 cents.
C'est le monde a
oui,
faim.
Exactement. Hein, ouais. Ben, tu as vu ça aussi dans la restauration rapide. Il y a des chaînes de restauration rapide qui ont commencé à adopter la tarification dynamique. Donc, si tu as du monde le midi, les prix sont plus élevés. En après-midi, on baisse les prix pour ramener peut-être plus de monde. Fait que là, les gens vont dire, attends une minute, si je rentre dans le restaurant à midi et quart, ça me coûte 25$ pour manger, mais si je vais à une heure, ben, ça me coûte 20$. Donc, on va peut-être...
On va y aller à une heure.
On va,
on... Les voir plus de monde à une heure, ça va coûter plus cher.
Et là, ça, c'est problématique. Je ne sais pas si tu as vu là, récemment. Des fois, c'est une scène. Des fois, c'est 1,5 cent. Tout ce qui était à 2,99 maintenant est rendu à 3 $ dans certaines épiceries, certaines bannières. Ça, ça veut dire qu'éventuellement, on va commencer à travailler. Uber le fait. Tarification dynamique le soir, quand tu sors des bars... Dans le territoire, tu te cales un Uber.
Crash le cash.
Ben, c'est plus le prix normal.
Mais non.
C'est selon la demande. Donc là, on veut commencer à regarder les algorithmes. On veut commencer à taponner là-dedans. Le gouvernement dit là, c'est parce que ça va au détriment des consommateurs. Ben, effectivement.
Absolument. Ben oui, tu le vois juste le domaine des spectacles.
Ah, oui.
C'est achetable.
Exact.
Et le monde font de la revente, justement. Ils en profitent de la tarification dynamique.
C'est ça, là. Puis là, je sais pas si tu as vu. C'était Ticketmaster. Il y a eu un procès aux États-Unis. Oui. Ils se sont fait reconnaître abus de domination.
Mm-hmm.
Donc, éventuellement, ces gros joueurs-là arrivent avec la tarification dynamique, commencent à taponner aussi. Donc, Ottawa... à Québec, on n'entend pas ça.
Non.
Ça, non, on n'est pas là. Ben, Ottawa commence à parler de ça.
Bonne affaire.
Moi, je pense que c'est du miel pour nous autres.
Du bon jus.
Du bon jus pour les consommateurs. Et également, métro. Là, c'est intéressant, ça aussi, parce que... métro. Là, c'est un gars qui sort, c'est à Trois-Rivières, Mathieu Baron, propriétaire de Boom Liquidation. Lui, c'est une espèce de liquidation Marie. Là. Bon, il a parti une chaîne de produits en liquidation, puis il s'installe dans un centre commercial où il y a déjà un métro à Trois-Rivières, et il y aurait une clause dans son bail qui dit qu'il ne peut pas vendre des produits, notamment alimentaires, pain, fruits à prix réduit. Certains produits alimentaires qu'il ne peut pas vendre, lui, dans le même centre commercial parce que Métro impose une clause de non-concurrence. Et ça, depuis 2024, c'est illégal.
Ah ouais?
Ouais. Il y a une loi qui a été changée. Le bureau de la concurrence dit c'est illégal. Tu peux pas être... Mettons, tu es dans un centre commercial, ça s'appelle Métro. Il arrive un joueur qui s'installe à l'autre bout du centre commercial qui veut vendre de la bouffe. Tu peux pas imposer, toi, comme locataire... ou locataire d'un bail dans un centre commercial, qu'un compétiteur puisse pas vendre les mêmes produits que toi. C'est illégal.
Oui.
Et c'est ce qui fait qu'au pied carré, aux 100 000 habitants, là, si tu regardes, il y a de moins en moins de supermarchés parce qu'on impose ces clauses-là. Sylvain Charlebois est assez clair. Il dit que le bureau de la concurrence doit enquêter. Est-ce qu'on va enquêter? Lui, il a déposé une plainte. Tu vois, le propriétaire, le Mathieu Baron, il a déposé une plainte au bureau de la concurrence. Il dit là, moi, on m'empêche de faire de la business. C'est de la bouffe.
Il veut juste aider le monde.
C'est de la bouffe. C'est pas là, des chars. Je comprends pour peut-être des chars ou.
Ouais, mais.
Tu vas limiter. Ça, tu dis, moi, je suis un gros client dans ton centre commercial. J'aimerais pas ça avoir à côté de moi un compétiteur qui vend la même affaire que moi. Ça, je peux peut-être comprendre.
Là, de la bouffe. C'est un besoin essentiel.
Ben, c'est ça, je te dis.
Ça marche pas, là.
Et d'autant plus que tu regardes par 100 000 habitants, on était à 22 supermarchés par 100 000 habitants. Au Canada, on est rendu à 19 supermarchés par 100 000 habitants. En 5 ans, ça a diminué beaucoup. Et on met en pointe vraiment là, ces clauses-là.
Qui sont illégales.
Ben, je pense que c'est très illégal. Même le bureau de la concurrence l'avait dit, avait rappelé tout le monde à l'ordre là-dessus. Donc, on a peut-être un cas là. Je sais pas. Bon, lui, il vend beaucoup d'affaires. Puis là, ce qu'il pourrait vendre, c'est toujours des produits périmés ou sur le bord de. Ça serait inclus là, dans le bail. Dans le fond, on veut écarter quelqu'un qui vend les mêmes produits que Métro dans le même centre commercial. Un petit peu de misère là-dessus. Tu sais, il n'est pas gros, là, Mathieu Baron. Boom, liquidation, je connais pas. Mais ça, on voit monter ça. Là. C'est bannière à rabais.
Ouais.
Marie.
Ben, le monde en a besoin, il y a de la demande.
Liquidation Marie, il y en a plein dans la région de Québec. Là. On les connaît, les bannières. Lui, il se fait bloquer. Lui, il dit, ben là, je comprends pas. Et lui, il est à Drummondville. Il y a aussi... en forte croissance. Son marché est très, très fort. Fait que voilà.